Au tout début de l'Église, vraiment l'Église naissante, tout de suite après l'Ascension, la Pentecôte, il y avait une difficulté avec le judaïsme. Est-ce que les personnes des nations, quand on dit les nations, il faut comprendre c'est les nations païennes, c'est-à-dire les nations polythéistes, peuvent recevoir aussi l'Esprit-Saint? Et il y avait cette grande difficulté, vous vous rappelez, est-ce qu'il faut demander aux gens qui suivent le Christ, cette nouvelle voie du Christ alors, hein, est-ce qu'ils doivent manger cachère? Est-ce qu'il faut qu'ils soient circoncis? Est-ce qu'ils doivent respecter tout ce qui est les prescriptions de la loi de Moïse? Ou est-ce que c'est autre chose? Et il y avait une vraie tension au tout début de l'Église naissante, et savoir est-ce qu'au fond, on peut aller vers les personnes qui ne connaissent pas du tout la parole de Dieu, qui ne savent pas qu'un Dieu unique existe. Et on voit, et je trouve ça très beau, que l'Église naissante, avec Pierre, là c'est Pierre, et donc quand vous dites Pierre, vous entendez l'Église, là, le collège des apôtres, a choisi cette capacité d'accueillir et de se laisser déplacer, alors qu'eux-mêmes étaient de tradition juive, et de se laisser déplacer, et on voit avec le centurion Corneille, qui reçoit aussi l'Esprit-Saint, avec tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Pierre parlait encore quand l'Esprit-Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Voilà, les croyants qui accompagnaient Pierre, qui étaient juifs d'origine, furent stupéfaits de voir que même les nations, même les païens, pouvaient recevoir la parole de Dieu et recevoir ce Saint-Esprit. Et au fond, et à travers le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on voit qu'on reçoit le Saint-Esprit? C'est qu'on rentre dans l'amour. Vous savez, l'Esprit-Saint, c'est l'amour du Père et du Fils. C'est ce baiser d'amour du Père et du Fils, cette embrassade d'amour qui rejaillit sur tous les croyants, en tout cas pour nous, mais pas que sur les croyants, sur des personnes qui ne sont pas croyantes ou qui ont d'autres confessions. Et on le voit donc au tout début de l'Église, il y a eu ce choix d'ouvrir largement cet accès au Saint-Esprit. Et on voit que la personne est mue par le Saint-Esprit parce qu'elle fait le bien. Et je trouve qu'aujourd'hui aussi, c'est important que nous ayons cette attitude d'ouverture. Le bien se fait en dehors des personnes qui croient en Jésus, en dehors des personnes croyantes en général, quelle que soit leur confession. Le bien se fait, l'Esprit-Saint agit. L'Esprit-Saint agit parce que, au fond, des personnes sont capables d'aimer. Maintenant, avec la différence du début de l'Église, il y a une grosse, grosse différence, parce que vous entendez maintenant des personnes qui vous disent « Moi, j'ai des valeurs chrétiennes. » Très bien, on ne peut être que rendre grâce avec ces valeurs chrétiennes, mais je ne crois pas. J'ai des valeurs chrétiennes, mais je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Vous entendez ça, voilà. Oui, c'est vrai que l'Évangile, c'est quand même difficile d'être contre, mais et du coup, voilà, moi, oui, s'aimer les uns les autres, ce que dit Jésus, moi je pense que c'est vraiment ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, tout ça j'y crois, donner à manger à celui qui a faim, vêtir la personne qui est nue, soigner les malades, tout ça, je trouve ça formidable. Moi-même, je suis engagé dans une ONG, vous entendez des personnes qui disent « Oui, ça c'est des valeurs de l'Évangile. » Et du coup, je me dis, est-ce qu'on est dans la même situation que Pierre était au tout début de l'Église, face à des personnes non-croyantes? Parce qu'il s'agit de personnes qui ne confessent, qui ne reconnaissent pas une transcendance, qui ne reconnaissent pas un ailleurs, un au-delà. Est-ce que nous sommes dans la même situation avec ces personnes-là qui pourtant font le bien, qui certes donnent de leur temps, sont bénévoles au Resto du Cœur, vont visiter des personnes âgées, dans leur propre famille, prennent soin des plus défavorisés et font des œuvres, vraiment des belles œuvres. Hein, des belles œuvres, il y a des tas de belles œuvres qui existent mais qui n'ont pas la foi. Sont pas partis de la foi, ou des œuvres, c'est intéressant aussi. Par exemple, Emmaüs, maintenant, est tout à fait sans religion. C'est-à-dire, alors qu'évidemment, ça a été fondé, déjà le nom Emmaüs, mais beaucoup de gens ne font pas le lien avec l'Évangile, avec le ressuscité Emmaüs, donc l'abbé Pierre, c'était clairement fondé dans une dimension spirituelle, et on voit des œuvres comme ça, qui se sécularisent, je m'appelle séculariser, où il y a une absence totale deux dimensions transcendantes. Alors, est-ce que on est face à des personnes qui sont dans une situation comme ça, dans la même situation qu'au tout début de l'Église? Je me suis posé la question. Alors, premièrement, on pourrait dire oui, parce que, au fond, de dire que d'où qu'il vient, le bien reste un bien. Et que donner à manger à ceux qui ont faim, soigner ceux qui sont malades, d'où que ça vienne, nous pouvons dire ce que vous vivez, vous, nous reconnaissons la capacité de don que vous avez envers les personnes nécessiteuses, eh bien, oui, nous reconnaissons, nous, un fruit du Saint-Esprit. L'Esprit agit en vous, même si vous-même, vous n'êtes pas du tout croyant, vous ne croyez pas en une transcendance. Maintenant, est-ce que ce n'est pas plus complexe que ça? En tout cas, quelle est la différence entre donner à manger à celui qui a faim parce qu'on croit en Jésus et donner à manger à celui qui a faim, point. Oui. Quelle est la différence entre les deux? Entre celui qui est mu par la foi, mais celui qui est juste mu par une empathie, une compassion. Quelle est la différence? Matériellement, voilà, donner à manger, c'est donner à manger. Soigner, c'est soigner. Vêtir, c'est vêtir. Maintenant, c'est au niveau du sens qu'il y a une différence. Et c'est une sens dans le sens pour nous, quand on fait ces gestes de charité, d'amour du prochain, de s'aimer l'un l'autre comme nous le commande Jésus, et c'est un commandement, c'est-à-dire que l'amour n'est pas spontané, eh bien, nous croyons que ces actes retentissent dans l'éternité. Alors là, ce n'est pas du tout pareil. Matériellement, c'est identique dans le geste posé, mais les actes retentissent dans l'éternité. C'est-à-dire, pour nous, croyants, quand on donne à manger, quand on revêt la personne qui est, lui donne des habits, quand on la soigne, etc., etc., ça a à voir avec la personne du Christ, et nous croyons que ces actes-là retentissent dans l'au-delà. Oui, il y a quelque chose d'une transcendance que la personne-là avec qui je suis et dont je prends soin, pour moi, c'est Jésus. Et ce fait que ce soit Jésus, ça veut dire que ça ouvre aussi les portes de la vie éternelle. Il y a quelque chose qui a à voir avec la vie éternelle, avec un ailleurs, avec un autre horizon, avec un au-delà, que n'a pas la personne qui n'est pas croyante. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir que cette différence, c'est pas une petite différence. De donner à manger, point, ou de donner à manger parce qu'on croit en Jésus ressuscité. Parce qu'on sait que ces actes, ce moment-là, c'est un moment d'éternité. Pour moi, ça n'a rien. Matériellement, c'est identique, mais au niveau du sens, ça n'a rien à voir. Vous entendez bien, ça n'a rien à voir. Alors, quelqu'un qui vous dit, moi, j'ai des valeurs chrétiennes, parfois, vous savez, je suis assez appliqué auprès des couples, etc., et les couples, bon, baptiser les deux, mais il y en a un qui est complètement... Moi, je crois aux valeurs chrétiennes. Mais quid de la vie éternelle? Est-ce que la vie éternelle, ça te parle? Est-ce que tu penses que cet acte que tu poses, d'amour, comme par exemple le mariage, qui est un sacrement pour nous, ça renvoie quelque chose de plus grand? Ça renvoie un ailleurs, ça renvoie quelque chose de plus grand que ton couple, plus grand que toi. Mais c'est intéressant, par exemple, pour prendre l'exemple du mariage, on ne pose pas la question si la personne a la foi. Dans le mariage et l'Église. Personne ne vous pose la question, est-ce que vous avez la foi? Quand on vous demande, vous savez, vous avez participé à des mariages à l'Église, etc. Est-ce librement, est-ce sans contrainte, est-ce pour toute votre vie? L'accueil des enfants, le fait de catéchiser les enfants, voilà, la fidélité, bon. Mais on ne pose pas la question de la foi, quelque part on la présuppose. Mais je trouve que c'est intéressant de même, ceux qui vont s'approcher pour la communion, est-ce que vous avez la foi? C'est très pénible, c'est pas prévu dans la liturgie d'abord, et puis ce serait très pénible. On présuppose la foi. On présuppose la foi. Donc, je trouve ça intéressant de dire que nous-mêmes, nous sommes dans une situation un peu différente, à la fois semblable et différente des premiers chrétiens face à la tradition juive, parce que l'idée d'une sécularisation, d'une absence de Dieu, n'était pas du tout dans le monde biblique présent, mais pas du tout. Et on peut voir encore aujourd'hui, dans les pays de tradition musulmane, l'idée de laïcité, mais c'est, on ne comprend même pas le mot, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une traduction possible. Où on prend pour fou celui qui ne croit pas en Dieu. Parce que c'est dans la nature, c'est culturellement, on peut la foi en Dieu est quelque chose d'évident, d'une transcendance en tout cas. Alors qu'aujourd'hui, non. La plus grande religion, c'est la religion de ceux qui n'ont pas de religion, la plus nombreuse. Alors comment on peut leur dire, tiens, peut-être justement de leur... comment on peut au fond, aider à cheminer vers la vie éternelle, vers quelque chose de ce moment d'éternité, vers ce quand la charité est au rendez-vous. Comment on peut aider ces personnes qui croient aux valeurs chrétiennes, mais qui n'ont pas de foi au fond, hein, c'est juste des valeurs. Alors, c'est pas facile parce qu'en fait, le christianisme a irradié toute notre société, même les droits de l'homme, voilà, d'où ça vient, ben voilà, c'est évidemment, ça vient d'une tradition judéo-chrétienne, et on voit bien des pays qui disent, mais non, on n'a pas cette manière de voir, parce qu'ils n'ont pas cette tradition-là, ça peut tout à fait arriver, hein, et donc de leur faire prendre conscience de l'origine de ça, de pourquoi, d'où ça vient, hein, ou des pays, par exemple, de la tradition asiatique, où le fait d'aider le prochain est mal vu. Hein, vous vous rappelez l'exemple du père Verlinde, peut-être ça vous dit quelque chose, hein, qui a écrit un livre, qui a prêché à Notre-Dame, bon, c'était il y a déjà quelques années, et qui a fait une expérience, lui qui était un maître du yogi, vraiment, il a voulu croire vraiment cette voie des pays asiatiques, cette voie du Bouddha, etc., jusqu'au jour où il a trébuché sur quelque chose, non, il marchait, trébuché sur quelque chose, et en fait c'était dans la nuit, c'était un peu dans la boue, etc., et il voit deux yeux par terre. Il dit, ben, c'est une personne là qui est à mes pieds. Et il s'apprête à la relever, son compagnon lui dit non, c'est son karma. Et vous savez combien Mère Teresa a eu énormément de difficultés en Inde à soutenir, à donner une mordigne, à recueillir des miséreux dans des bourroirs pour pouvoir leur donner une mordigne, parce que pour la tradition asiatique, c'est leur karma, c'est écrit, il ne faut rien faire, c'est leur destinée, c'est le destin. Et lui, donc du coup, ce cher frère, qui est devenu prêtre, etc., a dit, mais non, ça, si je ne relève pas cette personne-là, je cesse d'être un homme, s'il ne sort pas de la boue. Je cesse d'être un homme. Et du coup, ça a venu retoucher, au fond, cette présence du Christ en lui, hein, qui l'a fait rentrer dans une dimension de compassion. Donc, tout ça intéressant de dire que, mais pour nos pays, c'est peut-être plus difficile, parce qu'il y a eu comme, d'une certaine manière, c'est devenu une habitude, les ONG, et puis même l'État a repris ce que faisait l'Église pendant des siècles, que ce soit l'éducation ou la santé, c'était repris complètement par l'État, donc on voit pas forcément le plus, quoi. Donc du coup c'est pas facile, c'est d'ouvrir à une transcendance, de partir d'un geste de charité qui répond au commandement nouveau, et ensuite d'aller vers un ailleurs, vers une transcendance, c'est vraiment une conversion. Et je crois que ça peut être intéressant de, modestement, mais en tout cas de dire à des personnes qui sont généreuses, une vraie générosité, hein, de leur dire, pour moi, dans votre manière d'agir, je vois l'Esprit Saint à l'œuvre, l'Esprit du Seigneur. Est-ce que vous le voyez? Je vois que vous êtes habité. Peut-être vous n'en avez pas conscience, mais je vois que vous êtes habité, parce que ce que vous faites, tout le monde ne le fait pas. Alors je pense que le fait de valoriser comme ça, et de dire et d'affirmer une transcendance, et de dire que ce geste-là, dans ma foi, il a à voir avec une éternité, avec un ailleurs, avec un autre horizon, avec un au-delà. Savoir avec ça, ça retentit. Nos gestes de charité, d'amour, retentissent dans l'éternité. C'est notre foi. Est-ce que tu veux vivre comme ça? On peut poser la question. Et je trouve ça intéressant que de voir Jésus lui-même, justement, qui dit « C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez vous porter du fruit. » Et porter du fruit, précisément, c'est une capacité, justement, de relier le ciel et la terre. C'est la capacité de se mettre en marche et de découvrir dans le visible les traces de l'invisible. C'est notre foi. Dans le visible, je découvre un ailleurs. Dans le matériel, je découvre le spirituel. Et c'est pourquoi est-ce qu'on participe de la messe ? Parce que la messe est une pédagogie. Parce que la messe nous aide dans la présence à découvrir dans le pain et le vin qui est ensuite consacré le corps et le sang de Jésus. La messe nous aide à ça. La messe, c'est une pédagogie du regard. La messe, c'est faire le lien entre le ciel et la terre. C'est le ciel et la terre qui sont là, le fruit de la terre et du travail des hommes qui est là, présent et qui touche le royaume. Savoir avec le royaume. Comme c'est beau de vivre ainsi, mes amis. Comme c'est beau. Vraiment, c'est comme notre foi est belle. Vraiment. Quelle grâce d'être disciple de Jésus. Quelle grâce d'avoir une plénitude de vie dans le moindre acte et de toucher à l'éternité. Qu'est-ce que c'est beau de vivre comme ça? Alors, je trouve que devenir témoin, et le Saint-Esprit nous invite à devenir témoin, je pense que c'est juste dire ce qu'on vit. C'est juste dire, voilà, je fais peut-être la même chose que toi, tes côtés, dans la même ONG, dans la même association, que sais-je, mais voilà moi ce qui m'anime. C'est pas juste la beauté humaine, bien sûr que ça nous anime aussi, mais dans cette beauté humaine, on voit une habitation, une présence, parce que je découvre aussi en moi une présence. Alors puissions-nous, frères et sœurs bien-aimés, dans cette marche vers la Pentecôte, jeudi prochain c'est l'Ascension, puissions-nous vraiment vivre ainsi, déjà personnellement, d'avoir ce regard qui transforme, et devenir ainsi les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.